Calade 100.9.
Parlons de nutrition.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Nutrition avec Charline Simian. Bonjour Charline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
De quoi est-ce qu'on va parler dans cette émission ?
Alors dans cette émission, on va se poser la question de savoir si le gras, c'est vraiment la vie.
Ouais.
Pour cette dernière émission de la saison, j'avais envie de clôturer notre petit tour des nutriments et des aliments par celui-ci, parce que finalement, on a tendance à l'oublier et il fait effectivement partie de la vie.
Ouais.
Et il a quand même son importance, on va le voir au cours de cette émission. Il reste important de consommer du gras, que ce soit sous format gras ajouté ou sous format gras intégré dans les aliments, comme dans des viandes ou des choses comme ça.
Et est-ce que c'est une catégorie alimentaire comme on a pu le faire la viande, poisson, les fromages et produits laitiers, les fruits et légumes, c'était des grandes familles d'aliments. Et le gras aussi, c'est une grande famille ?
Oui, le gras fait effectivement partie de ces familles-là. On a les groupes alimentaires, donc on a effectivement, comme vous les avez cités, les protéines avec la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, le lait, les fromages et les laitages. On a aussi les fruits et légumes. On a les produits sucrés et puis on a aussi les matières grasses et les féculents.
D'accord.
Le dernier étant l'hydratation, donc les boissons, l'eau.
Ok. Et pourtant, j'ai l'impression que dans les viandes, dans le fromage, il y a du gras.
Tout à fait.
Donc, il est un peu partout, en fait.
Alors, et il est un peu partout, et c'est une catégorie à part entière.
Okay.
C'est pour ça, c'est un petit peu comme l'hydratation. Il va y avoir l'eau qu'on va boire et aussi l'eau qu'on va manger. Et là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qui va déjà être intégré dans nos repas, dans nos plats, dans notre viande, par exemple. On peut passer pratiquement du simple au triple sur une viande, qu'elle soit grasse ou pas, ou une charcuterie ou une viande. On va vraiment avoir des taux de matière grasse qui vont varier, et on va voir justement au cours de cette émission que si on veut faire attention au gras, c'est plutôt en choisissant ces choses-là qu'on va pouvoir impacter que en supprimant du gras de ce que je vais ajouter, un petit filet d'huile ou quelque chose comme ça. Il
D'accord.
est meilleur de faire ses choix dans ce sens-là, de dire je vais plutôt choisir une viande moins grasse, un fromage moins riche, que de supprimer l'assaisonnement que je vais y mettre.
Ok, très bien.
Dans ces catégories, il y a véritablement des classifications qui ont été faites. Et on va voir que j'y amène une petite nuance parce que pendant longtemps, on a dit le gras animal, c'est le démon, le gras végétal, c'est bien.
Ouais.
Et il s'avère que l'industrie transformant un petit peu les produits, le temps avançant, on se rend compte, en tout cas j'ai amené cette nuance dans ce côté, le gras animal c'est du cholestérol, le gras végétal ça n'en est pas.
Ouais.
Pourtant c'est une vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cholestérol dans les produits d'origine végétale. Pour autant, il y a des acides gras qui peuvent se rapprocher de ça et qui peuvent quand même... Le gros risque des produits gras, c'est qu'ils finissent par boucher vos artères.
Ouais.
Donc on a vraiment cette catégorisation au niveau des matières grasses de produits saturés, donc qui vont être plutôt solides, et de produits insaturés qui vont être plutôt liquides. Comme d'habitude, l'idée, c'est d'apporter un peu de tout.
Ouais.
Parce que du cholestérol, on en parle beaucoup en mauvais, mais en réalité, il en faut. Parce qu'il rentre dans la composition normale d'un organisme sain et en bonne santé et équilibré. Au niveau des matières grasses, on parlait justement de ces catégories alimentaires et du fait que le gras est une catégorie à part entière. Si on veut faire une répartition des trois grandes catégories alimentaires, les protéines, les graisses et les sucres, si je dois faire une répartition sur 100% de ce que je dois manger dans la journée, on va compter ces trois catégories-là. On va compter les protéines plutôt de l'ordre de entre 10 et 15% de mon apport de 100%.
Ouais.
On va compter les sucres, les glucides plutôt complexes de l'ordre de entre 50 et 57.
Okay.
Et puis, bah, du coup, le gras, ça doit faire la faim, donc ça fait quand même entre 30 et 35% de mon apport journalier de l'énergie que ça doit apporter au quotidien, c'est quand même un tiers de mes apports, un tiers de mes besoins. Alors, en sachant qu'effectivement, les matières grasses, on les voit assez peu, tout simplement parce que c'est le produit le plus riche en énergie au gramme. Donc, du coup, un petit peu de matière grasse apporte beaucoup d'énergie.
D'accord, oui.
C'est pour ça qu'on a l'impression que ça ne fait pas une catégorie à lui-même.
Mais ça, oui, c'est 30% d'apport, ça ne veut pas dire que ça va représenter 30% de ce que je mets dans mon assiette, justement, parce que c'est...
Parce que ça peut être réparti dans ma viande, dans mon produit laitier, si je mange plus de fromage, si je mange plutôt des produits laitiers frais. Effectivement, la répartition ne sera pas la même et... La tartine de Saint-Doux, c'est quand même pas un truc qu'on fait tous les jours non plus.
Ouais,
mais par exemple, on peut faire une tartine de Saint-Doux, une tartine de rillettes. Dans la rillette, on aura un peu de viande. Dans le Saint-Doux, on aura du gras.
Ouais.
Donc, véritablement, l'idée de travailler et de parler aujourd'hui de ces matières grasses, c'est presque de les réactiver. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le supprimer parce que c'est très riche. Et donc, si je le supprime... Bah, j'ai une tendance à supprimer le goût aussi. Mmh. Donc, c'est pas top. Hein. On a tous goûté un truc allégé en se disant « Ok, c'est du carton déguisé en fromage blanc. C'est pas bon, en fait. » Donc, véritablement, les matières grasses sont vectrices de goût. Donc, je vous ai fait le distinguo entre ces matières grasses saturées qui vont solidifier le produit, ces matières grasses insaturées. Il faut savoir, on l'a déjà évoqué dans certaines émissions, qu'il y a un certain nombre de vitamines qui vont être... liposolubles, donc solubilisés dans le gras, et donc on ne les trouvera que dans les matières grasses. C'est les vitamines A, D, E et K. La vitamine D, on la connaît parce qu'on en a
fait les os costauds.
Tout à fait, parce qu'on en a tous eu des petites pipettes, et si vous avez cassé une pipette et que vous en aviez sur les doigts, vous vous êtes rendu compte peut-être que ça fait du gras, parce qu'effectivement, on ne peut pas la mettre dans l'eau.
D'accord.
Donc, il y a celle-ci. Il y en a une autre qui est assez connue, hein, qui est effectivement la vitamine K. Pour les gens qui nous écoutent et qui sont anticoagulés, on va essayer de faire attention de ne pas trop en apporter parce que c'est une vitamine de la coagulation, justement.
D'accord.
Et les anticoagulants sont des anti-vitamine K. C'est dommage de prendre un médicament et de le surcharger par un surapport de vitamine
D'accord.
K.
D'accord, ouais, ouais.
Donc ça, c'était pour les apports de vitamines dans les matières grasses. Maintenant, je vous ai parlé d'acides gras saturés, d'acides gras insaturés. Ils ont des tas de noms. Ils sont à rallonge. C'est des acides alpha-linoléiques, alpha-linoléniques, butyriques. Alors, butyrique, ça rappelle un peu beurre. Alors, on peut savoir à peu près où il se situe. En fait, chaque matière grasse a comme... une espèce de carte d'identité de son schéma de gras, en fait. C'est pour ça que c'est important, par exemple, si j'utilise de l'huile végétale, de ne pas utiliser toujours la même et toujours la même origine. J'ai beaucoup de patients qui arrivent au cabinet et qui me disent « Ouais, moi, j'utilise que de l'huile d'olive. »
Ah oui, ça, c'est mon huile, c'est ma matière grasse.
C'est que ça. Okay. Et du coup, j'y sais très bien, si elle vous plaît, est-ce qu'on peut essayer d'autres huiles ? En plus, on a une huilerie dans le coin qui est top, avec d'autres origines, parce que justement, ça permettra d'avoir différents schémas et des apports différents. Vous avez peut-être entendu parler des oméga 3, des oméga 6. Là aussi, on a beaucoup travaillé sur les oméga 3. Il fallait tout enrichir en oméga 3, puis on s'est rendu compte en fait qu'on avait déséquilibré quelque chose qui est essentiel, qui est le rapport entre les oméga 3 et les oméga 6 qu'on apporte, qui doit être de 1 sur 5. Et du coup, on avait mis beaucoup trop d'oméga 3 et on a déséquilibré ce rapport. L'oméga 6, lui, il a tendance à être réputé pro-inflammatoire, donc il a une tendance à favoriser l'inflammation. Toujours pareil, en très grande quantité. Pour autant, ces oméga 6, ces oméga 3, il y en a même des oméga 9, mais on n'en a pas encore parlé dans les grandes surfaces. Alors du coup,
pour l'instant, on s'en préoccupe pas.
On s'en préoccupe pas trop, mais effectivement, ces oméga sont des acides gras insaturés, donc ils sont réputés plutôt bons pour la santé, par rapport au fameux dit démon cholestérol dont on entend parler.
Ouais.
Donc véritablement, on a toute cette variété et cette richesse. Et il faut savoir qu'un petit peu comme les protéines, les matières grasses, il y en a un certain nombre qui sont précurseurs d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on va les apporter, qu'elles vont avoir une toute petite transformation pour faire quelque chose de très intéressant dans l'organisme. Je vous passe tous les noms parce que c'est très complexe au niveau des matières grasses. Oui, c'est très technique et très indigeste, justement. Et donc, véritablement, on a ces acides gras qui sont essentiels à être apportés parce qu'on ne sait pas les synthétiser nous-mêmes. Même si on a du gras et qu'on pourrait se dire, tiens, bah, si je prends un peu du gras que j'ai dans le ventre, je pourrais éventuellement refaire mes acides gras. Il s'avère que non. On pourra refaire du sucre si on pioche dans le gras qu'on a dans le ventre, mais pas des acides gras. Donc véritablement, il y a vraiment un intérêt à en apporter pour justement couvrir ses besoins de synthèse, un petit peu comme les protéines, comme je vous le disais. Donc je vous parlais de cette notion un petit peu... j'allais dire archaïque, c'est peut-être un peu violent, de dire les graisses saturées animales sont mauvaises et les graisses végétales sont bonnes. En réalité, il y a une multitude de cartes d'identité de matières grasses et on se rend compte aujourd'hui que, par exemple, une crème fraîche qui va contenir des acides gras et qui est d'origine animale, bah, finalement, elle est presque liquide à température ambiante. Elle a une texture de fromage blanc. Donc, elle n'est peut-être pas si saturée que ça, même si elle contient du cholestérol. Alors que des nouvelles graisses qui ont été très à la mode, je pense notamment à l'huile de coco ou à des huiles un peu plus discrètes dont on entend moins parler, l'huile de copra, la végétaline, pour ceux qui nous en écoutent et qui connaissent le produit. Donc, l'huile de palmiste, celle-ci, on en a tous entendu parler. Ouais. Elles ont un impact effectivement environnemental, il n'y a aucun doute, mais... au-delà de ça, elles ont aussi un impact sur notre corps parce qu'elles sont très saturées et que ça a beau être des graisses végétales, comme elles sont plutôt solides à température ambiante, elles ont quand même plutôt une tendance à boucher les artères, à rigidifier ces artères.
D'accord. Donc,
on revient un petit peu de cette idée que finalement, si je mange du beurre, c'est la fin du monde et si je mange de la margarine, on est mieux. Parfois, certaines margarines, je ne citerai pas ici de marque, mais sont en réalité des blocs d'huile de palme.
Et donc la logique, c'est mieux vaut une graisse liquide.
Grosso modo, mieux vaut une graisse liquide parce que elle va moins boucher les artères. Donc pour les gens qui vont avoir des soucis de tension et des soucis cardiovasculaires dans la famille ou même d'ores et déjà eux des soucis, effectivement, il vaut mieux privilégier des huiles plutôt liquides à température ambiante. Et si vous voulez du beurre, pour éviter de l'abîmer, il vaut mieux le mettre à fondre sur un produit chaud ou sur des tartines plutôt que de le faire cuire bien à vif là pour faire un steak. Je vous invite à essayer de faire un steak à l'huile d'olive. C'est sympa aussi. Il y a des puristes qui vous diront que oui, mais...
Beurre salé.
Beurre demi-sel. Alors là, si vous avez de l'attention, c'est quand même le duo gagnant. Hein, entre le sel et le beurre, vous n'êtes pas très bien engagé. Pour autant, voilà, on est vraiment là-dessus. Et puis, on entend aussi parler aujourd'hui alors, de poissons gras, de poissons pas gras. C'est lequel il faut choisir. Alors, si on devait faire un choix... Moi, je mettrais 3 fois de poisson par semaine, 2 fois du pas gras et 1 fois un gras. En sachant que le poisson gras aura une meilleure carte d'identité au niveau de ses matières grasses que de la viande. Quelle que soit l'origine de la viande, il y a toujours moins de cholestérol dans du poisson que de la viande.
D'accord.
On est de l'ordre de 50 mg de cholestérol pour 100 g de produits sur le poisson et 70 sur la viande.
Est-ce qu'on a fait le tour de la carte d'identité de la matière grasse ?
Oui, des matières grasses.
Des matières grasses
dans leur ensemble, dans le produit lui-même, oui. Après, on va voir qu'il y a d'autres apports de matières grasses, il y a d'autres façons d'amener du gras.
Bon, on en parle en seconde partie d'émission. On fait une petite pause avec un titre bien festif, bien estival. C'est Soprano avec Vengami.
C'est Fuego de Marseille à Rio, Paris, Porto Rico, Africa, Mexico, Mundo. C'est Fuego de Marseille à Rio, Paris, Porto Rico, Africa, Mexico, Mundo. C'est bébé si tu savais pas. Je suis accompagné de mes salopards qui ont les yeux bleus à cause des gyrophares. On a le quartier tatoué sur la peau et des hippodromes sous le capot. Des mélos de fou sortis du chapeau avec un sourire plus figé que la Mona Lisa. Tout est black comme la Visa, même en période de crise. On fait dépenser des liasses de billets pour faire briller la Binta. Plus dangereuse que Nikita, sauce blanche sous les frites. Pogno tu connais, on a trop zoné pour changer nos manières.
C'est Fuego de Marseille à Rio, Porto Rico, Africa, Mexico, Mundo. C'est Fuego de Marseille à Rio.
pas sur la caisse. Elle veut la vie d'artiste. Elle veut la vie d'ami bébé. Roubaix c'est la psychiatrie. Marseille c'est la psychiatre. Et v'là les gars dit sur la piste. Soutis. Et j'vis ma vie. Du soleil sous les titres. Pop fissé sur mon visage. Comme Kenji sur la guitare. La guitare. Et vas-y suis-moi. T'inquiète pas que j'ai la quiche ta. T'inquiète pas que j'ai la quiche ta. Et quand j'monte sur scène tout le monde fait pop 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 pop.
Allez, de retour dans Parlons Nutrition avec Charine Simon, notre diététicienne nutritionniste. On parle du gras aujourd'hui, le gras c'est la vie, et on essaie de savoir ce que c'est plus précisément. Vous m'avez parlé d'oléagineux.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est des trucs sur lesquels on va appuyer et que ça va en faire de l'huile, comme l'olive, par
D'accord,
exemple,
ouais.
qui est un fruit oléagineux. Les oléagineux, on a plus tendance à les croquer en vérité à l'apéritif ou en snack. On va parler d'amandes, de noix, de noisettes. Alors, de pépins de raisin, je ne crois pas qu'on les mange comme ça, mais ça, c'est aussi un oléagineux dans le sens où on en fait de l'huile.
L'huile de pépins de raisin.
Tout à fait.
Le
colza aussi, on ne le croque pas, pourtant on fait de l'huile avec. Mais du coup, on va plutôt parler de ces graines-là parce qu'on peut les utiliser en alternative au beurre parce qu'il existe ces fameuses pâtes, ces fameux beurres de cacahuètes ou d'amandes aujourd'hui où on a des choses qui sont très savoureuses. Je vous conseille le beurre de cacahuètes au chocolat d'une marque lyonnaise qui s'appelle Gonuts, qui est incroyable. Donc ça peut être le truc vachement régressif comme ça, sympathique, mais on peut également s'en servir de matière grasse, alors pas forcément à fondre pour faire cuire le fameux steak dont on a parlé avant, mais on peut tout à fait l'utiliser en tartine le matin. Il ne faut pas craindre le goût de cacahuète et il faut veiller à choisir quelque chose qui soit plutôt pur beurre de cacahuète, parce que on peut très vite être sur un produit qui va être pas frelaté, mais qui va contenir de la cacahuète, qui est un produit un peu noble et qui coûte un peu cher et qui vient un peu de loin. Et ça va être coupé avec de l'huile, soit de l'huile d'arachide, qui ne vaut pas grand-chose au demeurant, soit carrément des huiles tournesol et autres, où là, bon, on a en plus les prix qui flambent. Ça peut être une alternative intéressante pour les gens qui font attention à leur cholestérol, mais également pour les gens qui vont être plutôt intolérants au lactose. On sait que le beurre est d'origine laitière et que ça peut être compliqué à digérer. Donc ces produits-là peuvent être intéressants. Une fois de plus, on peut privilégier le côté mâche, je vais les croquer, je vais les manger en snack. Et là, on apporte du gras, juste du gras, des protéines un peu aussi, et de la mâche. Mais on peut très bien y prendre l'option, je vais l'utiliser en tartinable et m'en servir comme d'un beurre. On peut l'intégrer dans des préparations comme des bowl cakes, comme des cookies ou des choses comme ça, en remplacement de la matière grasse animale. Ça sert beaucoup en alimentation végane, végétarienne, végétalienne.
Ouais. Là, on a vu à peu près à quoi ça servait la matière grasse dans l'organisme. Mmh. Moi, si j'ai bien compris, il vaut mieux manger des aliments moins gras qu'enlever la matière grasse de mes plats.
Tout à fait.
Et manger plein de graisses différentes.
Tout à fait. Il faut varier. Mais comme dans l'alimentation générale, pour ne pas s'ennuyer, il vaut mieux varier. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner les rôles, en fait, du gras dans l'organisme, parce ouais. que si on ne sait pas à quoi ça sert, on peut aussi se dire, bah tiens, je vais l'enlever. Le gras, alors, au-delà des vitamines, il y en a qui sont intéressantes pour le teint de la peau et pour les os costauds, on l'a vu. Pour la coagulation, il y en a également qui sont intéressants pour les yeux et ce genre de choses-là. Et puis, ça va jouer un rôle d'hydratation pour la peau. Vous savez, quand on vous dit « hydrate ta peau », bah souvent on met de la crème,
ouais.
donc du gras.
Ouais.
Là, on la tartine en externe. Mais du coup, nourrir une peau, c'est aussi la nourrir de l'intérieur. Donc du coup, c'est important d'avoir ces matières grasses pour ça. Mmh. Et puis, on a tendance à ne pas le savoir, mais un cerveau, c'est 20% de matière grasse.
Oui, vous en avez parlé dans une émission. Si on enlève l'apport en gras dans l'alimentation, on assèche son cerveau et ça peut avoir des conséquences très graves, c'est ça ?
Ça peut avoir des conséquences. Et on se rend compte aujourd'hui d'ailleurs qu'une alimentation qui pourrait, alors il y a des gros travaux hein, qui se mettent en œuvre là-dessus, protéger un petit peu des maladies neurodégénératives, pourrait être une alimentation enrichie en matière grasse, en amont hein, des troubles, hein. Je ne me faites pas dire ce que j'ai pas trouvé le remède contre les maladies neurodégénératives. Pour autant, effectivement, ça peut ralentir un développement de démence, tout simplement parce que, comme sur un fil électrique, vous avez une gaine isolante pour ne pas vous électrocuter. Il faut imaginer dans l'organisme les nerfs qui fonctionnent de la même façon. Et donc, les nerfs sont entourés de ce qu'on appelle une gaine de myéline, qui est une gaine de phospholipides, encore un mot, qui est en fait une gaine de gras.
Ouais, il y a lipide à la fin qui indique qu'on est sur du gras.
Qu'on est sur du gras, effectivement. Okay. Et donc, du coup, ça permet une meilleure circulation du message nerveux parce qu'il y a moins de déperdition. Donc véritablement, l'apport de matière grasse reste, dans des toutes mesures gardées, quelque chose d'important à maintenir pour maintenir toutes ces fonctions-là.
On a quand même essayé souvent de l'enlever de notre alimentation. Il y a plein de produits, 0% de matière grasse, allégés en matière grasse, etc. Vous avez dit que ça n'a pas de goût. Est-ce que c'est... Enfin, comment on peut enlever le gras, du coup, des aliments ?
Alors, au niveau industriel, on peut enlever le gras des aliments. Pour autant, le gras, ça prend un certain volume dans l'aliment. Mmh. Et si, dans l'industrie, on ne veut pas trop que ça se voit, c'est-à-dire qu'un yaourt, on l'a complètement écrémé, il fait donc plus que 80 grammes sur 125 à l'origine, ça finit par se voir dans un pot. Du coup, on a forcément une tendance par le remplacer. Alors, on va le remplacer soit en mettant du goût, du sucre, ouais. souvent, parce que du coup, on remplace un goût par un autre, un goût prononcé par un autre. Mais on peut aussi le remplacer par tout un tas de texturants, d'épaississants, de gomme de guar, d'agar-agar, c'est tout des gélifiants, en fait, ouais. qui vont donner cette texture onctueuse, crémeuse, et qu'on va rechercher quand on cherche une crème dessert, par exemple. Mais quand elle est 0%, en général, d'ailleurs, elle est 0,9%, parce qu'elle est au chocolat, donc le chocolat, il y a forcément du gras dedans. Et donc, du coup, on va vraiment retirer de la matière. Et c'est le problème, c'est que ça se voit, ça enlève du goût. Alors, parfois, j'ai des patients qui arrivent au cabinet qui me disent « Moi, je veux manger du fromage 0%. » Eh bien, mangez pas de fromage du tout, hein, parce que quitte à manger du fromage, autant pas manger du carton, parce que là, véritablement, on ouais. perd de la saveur et on perd tout ce qui développe les arômes, finalement, du fromage. Donc, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, sur un fromage pas très savoureux, type fromage à tartiner, je mets le gras, je l'enlève, ça change pas grand-chose, on a juste plus de texturants et de choses comme ça. Mais sur un fromage qui serait vraiment riche en goût, on est sur un fromage qui va être totalement insapide et très déceptif au final. Et il vaut mieux préférer manger un petit bout de fromage moins régulièrement, avec plus de plaisir, plutôt que de consommer ce fromage-là et d'en surconsommer en se disant « Oui, mais j'attendais pas ça de ce morceau de fromage. » Et de ne pas retrouver le kiff ouais. qu'on se serait fait avec un bout de fromage.
Se mettre dans une frustration parce qu'il n'est pas, aussi bon qu'on
aurait. Parce qu'il n'est pas aussi bon que ce qu'on aurait imaginé. Après, retirer du gras, c'est forcément retirer du goût. Parfois, il y a un ajout de sel, il y a un ajout de tout un tas d'épices. Quand on veut faire attention et quand on est obligé de le faire, quand on a des vrais problèmes de santé, une fois de plus, soit une très large hyperglycémie, hypercholestérolémie, pardon, soit des triglycérides aussi en quantité industrielle, j'allais dire, donc très grande quantité, où le foie commence à pêcher avec, quand on vous parle de foie stéatosique, de foie gras, de NASH, non alcoolique stéatohépatique, c'est véritablement des choses sur lesquelles on n'a pas d'autre choix que de faire au moins temporairement un régime le moins gras possible pour essayer de dégraisser tout ça. Et là, effectivement, on a des conseils et on a des adaptations où on va remplacer, par exemple, la crème par du fromage, du fromage blanc battu, qui va faire diminuer la quantité de matière grasse qu'on va consommer pour aller désengorger cet organisme qui ne sait plus gérer le gras. Généralement, on est sur des phases très transitoires. On peut aussi faire ce genre de régime en amont d'une chirurgie de l'obésité, un régime qu'on appelle un régime yaourt. J'aime autant vous dire que vous mangez plus trop de yaourt après, tellement vous en avez mangé avant. Et du coup, alors c'est des trucs qui sont vraiment très frustrants, mais qui sont très ponctuels dans l'aigu, en fait, pour désengorger. Et ensuite, l'idée est quand même de pouvoir réintégrer ces matières grasses. Parce que, une fois de plus, le gras, c'est la vie.
On peut rester là-dessus, conclure là-dessus ?
À mon avis, si on a évoqué tous les sujets autour du gras, c'est possible.
Très bien, merci beaucoup Charline.
À bientôt.
À bientôt.
Parlons nutrition.